Vous êtes sur RTL.
J'ai été libéré par la police et après être resté une semaine dans le noir, voir arriver brusquement des gens qui vous disent qu'ils sont de la police, c'est tout à fait stupéfiant. Moi, je dois dire, ça a été la plus grande surprise de ma vie.
Bonsoir, dans ce nouveau numéro de l'heure du crime, le premier des grands rapts français. C'était en 1975 et ce premier enlèvement médiatique allait faire école, ouvrir la voie à presque une dizaine d'affaires retentissantes jusqu'à l'enlèvement du baron Empain en 1978. Ce rapt-là, celui de Louis Hazan, tout puissant PDG des disques phonogrammes, ami des stars de l'époque, de Johnny Hallyday à Serge Gainsbourg, n'est peut-être pas le plus connu des enlèvements, mais c'est sans doute le plus mystérieux. Une opération pour le moins audacieuse, montée en plein Paris quelques heures avant le réveillon du 31 décembre 1975, rocambolesque aussi puisque perpétrée au sein même de la maison de disques dirigée par Louis Hazan. La suite va entraîner une enquête qui va révéler son lot quasi quotidien de surprises et révéler les profils inattendus des ravisseurs, des hommes ancrés politiquement à l'extrême droite radicale. Nous verrons si cette piste, la piste politique, au beau milieu de ces années 70, où groupuscules clandestins d'extrême droite comme d'extrême gauche bouillonnaient, si cette piste méritait d'être retenue ou bien si l'enlèvement de Louis Hazan était tout simplement crapuleux. C'est la sortie d'un livre, l'affaire Hazan, qui paraît aujourd'hui chez Marie Édition, qui nous a incité à rouvrir le dossier. L'ouvrage est signé par deux policiers qui à l'époque ont mené l'enquête au sein de la brigade criminelle et ont fait depuis beaucoup de chemin. Claude Cancès, qui deviendra un jour le patron du 36, la police judiciaire parisienne, et puis son équipier du moment, Jean-Pierre Birot, commissaire divisionnaire. Claude Cancès et Jean-Pierre Birot sont ce soir nos invités. Ils vont nous aider à lever les mystères de l'enlèvement de Louis Hazan. L'affaire Hazan, fausse note pour le rapt à la maison de disques. L'enquête de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
20h-21h,
l'heure du crime sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Hazan, un rapt médiatique, le premier d'une longue série. Et pour enlever l'un des plus influents PDG français, le meilleur moyen n'est-il pas de débarquer directement dans son bureau ? Ce mercredi 31 décembre 1975, tout le monde a la tête au réveillon de la Saint-Sylvestre, prévu dans quelques heures. L'équipe du comité de direction des disques phonogrammes n'y échappe pas. 9 personnes réunies autour de Louis Hazan, 53 ans, PDG de cette maison de disques, l'une des plus en vue du moment et des plus florissantes. La société ne compte plus les succès, les photos des célébrités de la chanson, Gainsbourg, Johnny, Brassens, Nana Mouskouri, Claude François, ornent les couloirs du numéro 6 de la rue Jenner, dans le 13e arrondissement de la capitale. Louis Hazan a promis que ce briefing, le tout dernier de l'année 75, ne s'éterniserait pas. Il ne pensait toutefois pas qu'il serait si bref. À 11h15, 6 hommes poussent la porte de la salle de réunion. Des physiques plutôt musclés et des visages déterminés. Aucun n'est masqué. Ils ne vont pas beaucoup parler. L'un d'eux, qui a l'air d'être le meneur, demande simplement « Qui d'entre vous est Louis Hazan ?» Il ajoute, ses paroles pour le moins énigmatiques, « On vient pour le solde ». Le PDG se présente, on l'empoigne, on lui lie les poignets avec le fil du téléphone. On lui passe une cagoule et on le glisse dans une malle en osier où il doit se recroqueviller. Un autre responsable de phonogramme, le directeur financier que l'on appellera ce soir Julien Vigne, est également embarqué, mais pas de malle pour lui. Le commando, dont personne ne saura comment il a pu entrer si facilement dans l'immeuble, quitte les lieux par une porte de service dont très peu de monde, même parmi le personnel, ne connaît l'existence. Ces ravisseurs sont décidément des hommes très bien renseignés. Tout le monde quitte la rue Jenner à bord de 2 voitures, une Audi rouge et une Renault Estafette bleue. Le convoi sort de Paris après avoir relâché à 300 mètres de phonogramme le directeur financier Julien Vigne. La malle contenant Louis Hazan est transféré dans un autre camion. Le fil de téléphone est remplacé par une lourde chaîne. Après un peu moins de 2 heures de route, le PDG est extrait de sa cachette. Il aperçoit alors les volets d'une maison, puis il se retrouve en partie enchaîné sur un lit. Ordre lui est donné, dès que la porte de la pièce s'ouvre, d'enfiler immédiatement ses deux cagoules l'une sur l'autre. Un de ses gardiens lui a confié « Nous ne sommes là que pour vous garder, les autres travaillent à Paris ». Bonsoir Claude Cancès.
Bonsoir.
Vous êtes en ligne dans l'heure du crime ce soir, un de nos invités. Vous êtes l'ancien patron du 36 quai des Orfèvres. À l'époque du rapt, vous êtes commissaire à la brigade criminelle, à la crime comme on dit. Et ce soir-là, vous êtes de permanence, le soir du réveillon du 31 décembre. Quand on vous annonce, Claude Cancès, qu'on a enlevé Louis Hazan, qu'est-ce que vous dites? C'est un peu votre baptême du feu de toute façon en matière de rapt.
Oui, tout à fait. Ma première réaction est celle de tous mes collègues. Nous sommes de permanence. Vous savez, la crime, c'est une usine qui tourne 24 heures sur 24. Et là, on est de permanence jusqu'à 19 heures. Et on se dit, à 19 heures, on va passer le réveillon gentiment. 11h30, un de mes collègues rentre dans le bureau et me dit, Claude, tu es de permanence? Oui. Eh bien, tu dérouilles. On vient d'enlever le PDG de Phonogram. Et première action, je dis, et merde. Et puis, deuxième réaction, comme la plupart de mes collègues, Jean-Pierre Diroc, le procédurier que vous avez dans votre studio, on est excité parce que c'est une affaire hors du commun, on n'a pas beaucoup connu, et voilà, c'est parti, ça part comme ça, voilà, c'est une compréhension.
Jean-Pierre Birot, écoutez, vous êtes effectivement dans le studio de l'heure du crime ce soir. À l'époque, vous étiez donc procédurier à la crime. Hein, je résume, c'est quelqu'un qui, effectivement, comme son nom l'indique, rassemble les procédures, établit l'ordre des interrogatoires, etc. C'est un travail assez ingrat, mais capital en matière d'enquête, on le dit jamais assez. Votre souvenir à vous, lorsque vous apprenez que vous allez devoir traiter un dossier quand même qui est assez compliqué. Vous le connaissez d'ailleurs, ce Louis Hazan?
Non, pas du tout. La personnalité ne me disait rien. En fait, quand on me dit, j'étais en train de monter l'escalier du 36 avec une bourriche d'huile dans les mains parce que tout le monde avait à l'idée le réveillon, et j'ai un collègue qui me dit, eh ben tu dérouilles. J'ai cru que c'était une blague. Et puis, au fur et à mesure que je montais les étages, à l'état-major et au palier des inspecteurs divisionnaires de la crime, j'ai vu que c'était une réalité. Tout le monde courait dans tous les sens, immédiatement.
Donc il se passait quelque chose d'important, c'est ça?
Absolument, c'était l'effervescence.
Claude Cancès, quels sont, dans ce cas de figure, et pour vous, encore une fois, c'est une première, un rapt, c'est une industrie, le rapt, vieille comme le monde, sauf que là, ça fait, en France, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre d'affaires. Quelles sont les mesures que vous allez prendre tout de suite?
Écoutez, la première, immédiatement, c'est d'informer la BRI, la brigade anti-gang, qui va travailler nuit et jour avec nous. Et puis après, on a une checklist au sein de la préfecture de police, les services classiques, l'identité judiciaire, la police technique et scientifique, les services techniques, et au-delà de la préfecture de police, la direction centrale PJ, la police de l'air et des frontières, enfin, toute une batterie de services qui sont en alerte immédiatement.
Et puis, tout le monde est sur le pont, hein. C'est bien ça, Claude Cancès. Hein.
Voilà. Et tout de suite, l'important pour nous, c'est d'aller sur place, parce que nous n'avons que des renseignements téléphoniques, d'aller sur place avec, vous savez, la criminelle, cette usine qui fonctionne 24/24, elle est composée, l'équipe de permanence, du chef de service, de son adjoint, d'un commissaire de police, votre serviteur, d'un chef de groupe, en l'occurrence c'était Michel Carbois, dont on parle beaucoup dans notre livre, et un procédurier, Jean-Pierre Birot.
Jean-Pierre Birot.
Vous l'avez dit tout à l'heure, qui est un petit peu le scénariste, le metteur en scène.
Oui, c'est le metteur en scène et c'est effectivement la cheville ouvrière dans une enquête. Justement, Jean-Pierre Birot, je vous repose un petit peu la même question. À l'époque, en France, le rapt, c'est nouveau. Le rap de personnalité comme ça.
Oui, tout à fait.
On ne connaît pas.
Il y a eu un rap quelques mois avant sur le banquier Suarez, mais c'était des groupuscules espagnols qui l'avaient enlevé. Mais le rapt, à une demande de rançon, le rapt qui inaugure un petit peu la série qui va suivre, c'est tout à fait nouveau. On n'est pas habitué à cet événement.
Un événement inédit. des ravisseurs qui ne vont pas tarder à se manifester. Ils ne craignent pas vraiment d'être reconnus et ont de toute évidence envie que leur affaire aille vite. Le téléphone va effectivement sonner. La demande de rançon va être exorbitante. Mais avant cela, les policiers vont faire de troublantes découvertes. L'affaire Hazan, racket politique et show business. L'enquête de l'heure du crime à tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime. RTL. 20h, 21h.
L'heure du crime sur RTL.
Retour ce soir dans l'heure du crime sur le rapt spectaculaire en 1975 d'un grand patron français, Louis Hazan. Le premier enlèvement médiatique, les ravisseurs ont réussi et le tiennent en otage, mais apparemment, ils lui en veulent depuis un bon moment. Aucune trace de Louis Hazan, enlevé en fin de matinée ce 31 décembre au siège même de la société qu'il dirige, les disques Phonogram. Les signalements des deux voitures utilisées pour le rapt ont été communiqués à tous les commissariats. La PJ parisienne planque dans des camionnettes banalisées, des sous-marins, des soum, comme on les appelle dans le jargon. Devant Phonogram et également rue Montalembert, le domicile du PDG, dans le 7e arrondissement de la capitale. La brigade criminelle a demandé à chaque service du 36 de lui faire remonter tout dossier concernant Louis Hazan et Phonogram. Elle n'a pas été déçue. Le troisième cabinet de délégation judiciaire, qui traite des affaires d'escroquerie, enquête depuis 2 mois sur Phonogram et son PDG. Le 3 octobre, un ordre de virement de 3 665 000 francs émanant de la société Phonogram a été encaissé par un mystérieux individu, un certain Paul Roux. Il venait juste d'ouvrir un compte dans une banque de l'avenue Mozart dans le 16e arrondissement. Ce virement avait tout d'un document en règle, sauf que la signature de Louis Hazan avait été imitée. Un faux parfait. Le mystérieux Paul Roux, il ne sera jamais retrouvé, a empoché l'argent. Les enquêteurs tiquent. Ils se demandent si cette escroquerie bancaire n'a pas un lien avec les paroles prononcées par l'un des ravisseurs. « On vient pour le solde ». Des policiers d'autant plus sceptiques que 20 jours après l'affaire du virement bancaire, une forte explosion a retenti dans la nuit du 22 au 23 octobre devant le siège de la compagnie. Un plasticage très professionnel, quasi militaire, qui n'a pas été revendiqué et qui a tout d'un avertissement, d'un chantage, le genre d'intimidation qu'on retrouve dans les affaires d'extorsion de fonds ou de racket. Phonogram est une société riche et solidement installée, contrôlée par 2 géants de l'électronique et de l'électricité, Philips et Siemens. Son PDG et son état-major n'ont aucune protection particulière, de quoi attiser les appétits du grand banditisme qui, à l'époque, commence sérieusement à s'intéresser à l'industrie du rapt. Jean-Pierre Biraud, ancien membre de la brigade criminelle, commissaire, et vous, à l'époque vous êtes donc sur l'affaire avec Claude Cancès. Un mot tout de même sur ces 2 troublantes affaires hein, qui interviennent donc en amont hein, de l'enlèvement du PDG Louis Hazan. Est-ce qu'elles vous intriguent beaucoup ?
Oui, absolument, parce que l'un des ravisseurs le dit d'une manière forte, claire, on vient pour le solde, donc ce n'est pas anodin. Et donc, dans les recherches que nous faisons, systématiquement, dans chaque affaire, sur l'environnement, les antécédents, donc apparaissent, comme vous l'avez dit, ces deux affaires, un faux ordre de virement de 3,6 millions, qui est quand même conséquent, et donc dont est saisi le troisième cabinet de délégation judiciaire, mais qui ne nous apporte pas grand-chose dans l'immédiat, et qui est suivi, ce faux ordre de virement, en octobre, d'un attentat par explosif contre la société.
Donc là, il y a quand même un doute qui plane, hein. Il y a un petit mystère quand même, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société, ou en tout cas autour de cette société. Qu'est-ce qu'ils vous disent chez Phonogram quand vous demandez
ils connaissent les deux affaires, ils ont des explications un peu gênées et qui ne sont pas très claires, parce que de toute façon, ce n'est pas très clair. Et donc, on se dit, il y a un lien. et quel est le lien qu'il faut tirer. Est-ce qu'ils viennent pour, effectivement, pour le solde? On est en plein mystère, on ne comprend pas très bien.
C'est ça, donc on n'arrive pas à déterminer qu'il y ait un véritable chantage. Claude Cancès, vous êtes toujours en ligne avec nous dans l'heure du crime ce soir. Vous étiez vraiment aux premières loges dans cette enquête à l'époque, de l'enlèvement de Louis Hazan. Je voudrais qu'on revienne avec vous tout de même sur un doute que vous pouvez avoir très vite sur les complicités internes. Est-ce que vous avez le sentiment que quelqu'un en veut au PDG à l'époque ?
On a une bonne raison de le penser. Vous venez d'évoquer les deux affaires qui ne peuvent pas nous empêcher d'y penser. Mais comme vient de le dire Jean-Pierre, pour nous, c'était très, très mystérieux. Vraiment, au départ, on est vraiment dans le brouillard jusqu'au moment où on aura la conviction qu'il y a un complice à l'intérieur du comité de direction.
Oui, c'est ça. Vous allez l'avoir, effectivement, cette conviction, et on va effectivement en reparler un peu plus tard, mais vous avez des doutes parce que, je le disais tout à l'heure, il y a cette histoire de porte dérobée que personne quasiment ne connaît chez Phonogramme, et puis tout d'un coup, tout le monde est rentré et sorti par là. Racontez-nous, Claude Cancès.
Exactement. Les voyous sont rentrés par une porte qui était pratiquement inconnue dans l'ensemble des personnels, par une issue très peu connue, et ils sont repartis par la même voie, ce qui nous laisse à penser dès le début qu'ils connaissent bien les lieux. Mmh. Et pour connaître bien les lieux, il y a vraisemblablement quelqu'un à l'intérieur de la maison Phonogramme qui a dû les renseigner.
Et dans ces cas-là, vous refaites, et Jean-Pierre Birot va sans doute le confirmer, vous refaites le profil des gens qui étaient là autour de cette fameuse Assemblée Générale, ce comité de direction?
Ah oui, il est évident que tout de suite, on fait des recherches sur tous les membres du comité, on fouille dans leur passé, quoi, c'est sûr. Hein. Mais on ne trouve rien de particulier sur l'ensemble des membres du comité.
On ne trouve rien de particulier. Jean-Pierre Birot, l'affaire n'est pas encore sortie dans la presse, je crois. Et je crois d'ailleurs que Madame Hazan, l'épouse du PDG, est farouchement opposée à ce qu'il y ait la moindre fuite. Comment on arrive à tenir cette affaire secrète qui est pourtant très spectaculaire?
C'était, en fait, nous sommes restés discrets, mais ça peut très rapidement s'ébruiter par tous les moyens qu'on met en œuvre et tous les fonctionnaires, tous les services que l'on sollicite, notamment à l'époque les PTT, pour les écoutes téléphoniques qu'on entreprend sur réquisition. Et donc, on avait été avisé par Jacques Caillard, qui était le secrétaire général de la société, que Madame Hazan était une personne très sensible et qui avait peur d'un petit peu de que ça sorte dans la presse et que ça soit vraiment funeste pour son mari.
Que ça porte préjudice à son mari.
Oui, tout à fait.
On le serait à moins et c'est tout à fait compréhensible. Encore un mot, Jean-Pierre Birot. À l'époque, Michel Poniatowski est le ministre de l'Intérieur. Il y a eu une consigne qui a été donnée, on ne paie pas les rançons. Je crois que c'est quelque chose qu'il a dit à l'époque.
C'est une stratégie qui a été en fait initiée par Piero Tavioli, qui a été un patron emblématique
de la brigade
criminelle, et qui lui, son principe, c'était on ne cède pas au chantage des ravisseurs. Il en a convaincu le préfet, bien sûr, c'est remonté au ministère de l'Intérieur, et disons que la stratégie de Piero Tavioli a été suivie, et on verra par la suite que c'est une stratégie qui a été payante sur les autres affaires d'enlèvement, et par la suite de ce genre d'affaires.
On ne cède pas aux ravisseurs ou on va faire semblant de céder. L'affaire va s'accélérer, ces ravisseurs confirment qu'ils sont des hommes pressés et même empressés. Ils vont donc se manifester. Les enquêteurs s'attendaient à des professionnels chevronnés. Ils vont découvrir, heure après heure, jour après jour, une bande d'individus pour le moins hétéroclites. Le rapt de Louis Hazan, des ravisseurs trop bien renseignés. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. À tout de suite sur RTL.
L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. RTL. 20h, 21h. L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Ce soir, dans l'heure du crime, nous revenons sur le rapt du PDG des disques Phonogramme, Louis Hazan, en 1975. Il est retenu dans un lieu tenu secret. L'heure est désormais à la demande de rançon. 15 millions de francs. C'est cette somme, monumentale à l'époque, que la société Phonogramme doit remettre aux ravisseurs en échange de son PDG, Louis Hazan. Faute de quoi, personne ne le reverra vivant. Dès le mercredi 31 décembre au soir, le commando s'est manifesté au téléphone. Nouveau coup de fil le lendemain, 1er janvier, à 15h20, au domicile du PDG. Rendez-vous est fixé à 16h à l'hôtel PLM Saint-Jacques pour des instructions supplémentaires. Le numéro 2 de Phonogramme, Jacques Caillard, bras droit de Louis Hazan, se rend sur place. Il reçoit un nouveau coup de fil. Les 15 millions doivent être remis le lendemain à 14h30, hôtel Roblin, rue Chauveau-Lagarde. L'interlocuteur ajoute que, si la police est prévenue, M. Hazan sera exécuté, des bombes déposées dans des lieux publics, des représailles seront exercées contre les dirigeants et les familles de Phonogramme. La PJ est sur les dents. Elle ne sait pas à qui elle a affaire et doit faire preuve d'ingéniosité. Il est décidé que le commissaire Cancès prendra la place du responsable de Phonogramme, Jacques Caillard, pour remettre la rançon. Le fameux hôtel Roblin est placé sous surveillance et le standard mis sur écoute. Le vendredi 2 janvier, le commissaire est pile à l'heure, 14h30 tapante, au rendez-vous. Mais il n'y a personne à l'hôtel. Le rendez-vous est reporté. Le samedi 3 janvier, 11h, coup de fil chez Odette Hazan, la femme du PDG. « Nous sommes très mécontents. Nous avons repéré des policiers », dit une voix déterminée. Deux lettres écrites par Louis Hazan, un appel désespéré pour que la rançon soit remise et une autre pour rassurer sa femme, sont retrouvées dans une cabine téléphonique. Les ravisseurs sont en colère, mais le fil, avec eux, n'est pas rompu. Les jours qui suivent sont l'occasion d'un jeu de pistes dans la capitale. Les preneurs d'otages semblent de plus en plus méfiants, mais aussi agressifs. Ils ne cessent de faire allusion aux dispositifs policiers comme s'ils étaient renseignés de l'intérieur, comme s'ils disposaient d'une taupe informée des moindres faits et gestes des enquêteurs de la PJ. Au téléphone, la mystérieuse voix ne fait pas dans la nuance auprès d'Odette Hazan. S'il se passe la moindre chose lors de la remise de rançon, la vengeance contre vous et votre famille sera éternelle. Nous sommes très nombreux et bien organisés. Nous ne voulons pas répandre le sang. Ne vous en rendez pas responsable. Claude Cancès, au téléphone de l'heure du crime ce soir. Vous étiez à l'époque l'un des enquêteurs dans cette affaire d'enlèvement, celle de Louis Hazan. Ça vous a fait quoi, Claude Cancès, de jouer finalement la chèvre, celui qui va porter des messages et porter ensuite la rançon? Je suppose que c'est très difficile comme mission.
Oui, mais j'avais à mes côtés un vieux pote, Bernard Pire, un solide gaillard de la BRI. Et puis, vous savez, comme l'a dit Pierre Ottavioli dans ses mémoires, deux services qui travaillent à la main dans la main, comme la BRI et la criminelle, eh bien, on va au bout du monde. Mais j'ai eu un rôle aussi un petit peu délicat, c'est que j'ai pu me faire passer pour avoir le contact avec Madame Hazan pour un attaché de presse.
Oui, mais voilà. parce qu'il faut le dire, Claude Cancès, vous jouez un rôle finalement. Vous remplacez les gens de Phonogramme pour essayer d'approcher au plus près les ravisseurs, c'est ça?
Voilà. Bernard Pire et moi, on va être les porteurs de rançon, surtout dans la phase finale.
Alors pour l'instant, on voit pas grand-chose. Jean-Pierre Biraud, vous étiez aussi sur l'enquête à l'époque. On a l'impression que les policiers tournent un peu en rond dans Paris. C'est normal dans ce genre d'opération? On se fait balader à droite, à gauche, coup de fil, à la cabine téléphonique?
Oui, tout à fait. Les ravisseurs font un jeu de pistes pour nous tester, éventuellement pour être un observateur, ce qui n'a pas été le cas en fait, pour voir un petit peu si le porteur de la rançon y a une filature qui le protège. Mmh. Et donc, il y a tout un tempo de messages, de rendez-vous ratés, ou émaillé de menaces. On vous a vu, vous avez prévenu la police, donc on remet ça demain, mais ça ne va pas durer 8 jours. Et donc, on va de point en point, en faisant extrêmement attention. Le porteur de rançon, en l'occurrence, qui était Claude Cancès, et si vous voulez, une filature en amont qui va voir un petit peu sur le point de rendez-vous suivant, comment est la physionomie. Lui, il est protégé, savoir s'il est suivi. Donc, c'est tout un dispositif avec des fonctionnaires en nombre de l'anti-gang et de la criminelle.
Oui, c'est ça, c'est parce qu'il y a la partie émergée, c'est-à-dire la voiture de Claude Cancès, hein, on la voit, etc. Mais autour, effectivement...
Ah, mais autour, c'est comme il est dans une NAS ou de voitures qui circulent, de motos, de piétons, et voir un petit peu l'environnement et d'abord le protéger. Et puis ensuite, il n'est pas question que les ravisseurs mettent la main sur la rançon et il ne faut pas se faire détecter.
Et alors, j'ai cité les messages des ravisseurs, ils sont vraiment très inquiétants, très agressifs. Hein. Ils n'hésitent pas à dire on va poser des bombes, etc. Allez, sur le moment, vous les croyez déterminés ou bien est-ce qu'ils bluffent ?
Ben, sur les bombes, ça nous paraît quand même, ça nous paraît gros quand même. Mais on n'oublie pas quand même que c'était 6 individus déterminés et armés qui sont intervenus chez Phonogramme. Mmh. Et on ne sait pas à qui on a affaire. Donc, si vous voulez, on prend les menaces au sérieux et on redouble de précautions et de vigilance.
6 individus, effectivement, qui sont apparus, le visage même découvert, donc qui n'ont peur de rien. Claude Cancès, vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Est-ce que vous avez le sentiment, à ce moment-là, que votre idée sur la fameuse taupe se précise ? Je crois qu'il y a un personnage qui apparaît quand même, qui est un peu plus exposé que les autres dans cette histoire.
Oui. Le directeur administratif et financier, si vous voulez, dès le lendemain de l'enlèvement, il y a une réunion chez Meyerschen-Mergret, que vous avez cité, le grand patron du groupe mmh. Philippe, et au cours de laquelle sont présents tous les membres du comité de direction. Et on pose la question, on se dit, prochain appel des ravisseurs, il faudra leur demander qu'ils nous fournissent la preuve qu'ils détiennent bien Louis Adam. Et le lendemain, avant même le premier appel qui arrive, je crois que c'est Caillard qui l'a au téléphone, l'un des ravisseurs qui est au fil dit « Vous avez un message, porte d'Auteuil ».
C'est-à-dire que
la réponse à la question posée.
Voilà, vous n'aviez même pas relayé cet appel, que déjà vous aviez la réponse, c'est bien ça.
Exactement. Ah. Et donc, la taupe, elle est parmi les membres du comité.
C'est ça. Et parmi les membres du comité, il y a le fameux directeur financier, Monsieur Vigne, on l'appelle comme ça, hein, aujourd'hui. C'est sur lui, hein, déjà, que le regard se porte. Hein. Il faut pas... Dès ce moment-là, vous savez à peu près de qui il s'agit.
Oui, parce que lorsqu'on l'a entendu, les premières auditions, il était quand même le plus fébrile. Il avait des raisons d'être fébrile, puisqu'il avait été pris en otage lui aussi, mais enfin... Nos soupçons sont assez rapidement portés sur lui, et là, évidemment, on n'en a eu que la confirmation.
6 jours après l'enlèvement du PDG Louis Azan, les choses vont se précipiter. Et puisqu'il s'agit de jouer au chat et à la souris, les policiers vont opter pour la mise en place d'une souricière. Un piège qui va se refermer sur des ravisseurs qui ne semblent alors être que des seconds couteaux. Les gros poissons suivront. Le rapt de Louis Azan, escroquerie ou opération politique ? L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, on se retrouve tout de suite.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Dans l'heure du crime ce soir, l'enlèvement de Louis Azan, le premier grand rapt médiatique. Après une semaine de coups de fil et de mystérieux rendez-vous, la remise de la rançon est programmée. Ce mardi 6 janvier, les policiers du 36 s'apprêtent à vivre une rude journée. Celle de la remise des 15 millions de francs de la rançon. Ils ne savent pas précisément qui est ce gang de ravisseurs qui les nargue depuis 6 jours. De plus en plus précis, ils veulent des billets en vrac et usagée est remontée. Ils commettront, disent-ils, des attentats dans Paris si on ne suit pas leurs ordres. Le jeu de piste recommence. Dans une consigne de la Gare du Nord, deux mots écrits par le PDG enlevé, Louis Hazan. L'un d'eux adressé directement au patron de la brigade criminelle, le commissaire Ottavioli. « Ne pas interférer, je vous en conjure », le deuxième à son épouse. « Ne pas ébruiter l'affaire », des mots écrits évidemment sous la menace. La crime est pourtant bel et bien aux premières loges à 19h35, place de la Bastille, devant le restaurant La Tour d'Argent. Comme prévu, le commissaire Cancès, en faux dirigeant de phonogramme, est au volant de la voiture qui amène la rançon. Avec un collègue, les sacs sont déposés. Les deux policiers s'éloignent. Surgit alors une Renault 4L avec deux hommes cagoulés. Ils ont juste le temps de se saisir de la rançon quand ils sont percutés par une voiture de l'anti-gang. Les deux inconnus sont menottés, deux frères, Didier et Dominique Pratt, 26 et 23 ans, des petites frappes, connues pour des petits délits, mais aussi pour leurs activités politiques. Ils font parfois le coup de poing pour une formation d'extrême droite très radicale, le Parti des Forces Nouvelles, le PFN. Désormais, il faut faire vite. Les policiers jouent à qui tout double avec cette arrestation. Les ravisseurs pourraient avoir envie d'éliminer leur otage ou alors disparaître. Les déclarations des deux frères interpellés sont confuses, mais de fil en aiguille, des noms surgissent. Celui d'un certain Daniel Merani, dit Miguel, lui aussi activiste d'extrême droite, puis celui d'un certain Hugo Brunini, présenté comme l'organisateur du rapt, patron d'une entreprise de nettoyage, travaillant notamment pour Phonogramme, apparaîtra plus tard dans l'enquête un ancien d'Indochine et ex-membre de l'OAS, Jacques Prévost. Lui est une célébrité. Il avait été condamné à mort après l'attentat du Petit Clamart contre le général de Gaulle et gracié. Jean-Pierre Birot, je me tourne vers vous dans le studio de l'heure du crime. C'est vous qui menez l'audition, notamment de Didier Pratt, l'un des deux frères interpellés. Comment est-ce que vous réussissez à le faire parler? Comment va-t-il se mettre à table? Parce qu'il va donner beaucoup de détails.
Il ne va pas se mettre à table tout de suite. Là, j'ai été aidé par un collègue qui était Roland Séjard. Et donc il a reconnu les faits, et puisqu'il venait chercher la rançon, il a expliqué les actes préparatoires, qu'il était avec son frère, qui a été interpellé à lui, et il donne des prénoms, il avoue ce qu'il peut, mais manifestement, il ne dit pas grand-chose. Et quand on les parle de Merani, qui apparaît dans les recherches faites comme étant...
Par les renseignements généraux.
Par les renseignements généraux. Il dit qu'il est déjà allé chez lui. Immédiatement, on interrompt l'audition, c'est minuit et demi, pour qu'il nous amène exactement, qu'il nous désigne à Saint-Maur, l'endroit où...
L'adresse
de Merani. Et alors là, il s'agit d'une grande cité, on ne peut pas rentrer. On revient avec Didier Pratt, et met une planque qui est effectuée par l'anti-gang à l'adresse. Et ensuite, il est interrogé toute la nuit. Et au petit matin, il est mûr. Hein, et quand le commandant Carbois arrive à un moment donné à 7h du matin dans le bureau et qu'il prend la grosse voix, que nous on avait prise toute la nuit quand même, hein, ouais. Et il dit je vais vous donner le nom du cerveau de l'équipe.
Ouais. Et là, il donne Brunini, c'est ça?
Alors d'abord, il donne en premier le nom de son père, parce qu'on ignorait que son père également était dans le coup.
D'accord.
Et il donne le nom de Brunini, qui... Alors, dès qu'il donne des noms, il y a des équipages qui
partent, évidemment.
Pour planquer et tout, et...
On
va vérifier tout cela, quoi. Et ça dure toute la nuit, ça.
Et éventuellement faire des interpellations. Claude Cancès, qui est ce Hugo Brunini que vous allez bientôt interpeller?
Il est employé par la société Phonogramme. Il s'occupe du nettoyage des bureaux. Hein. Il a une grande entreprise. Et il est interpellé assez rapidement. Et il va nous donner, il est interrogé par un collègue Michel Auguste, il va nous donner une version des faits assez fantastique. Assez fantaisiste dès le départ.
C'est-à-dire qu'il va un peu vous balader, quoi. Il va essayer de...
Oui, c'est ça. Vous savez, on est parti dans les thèses auto-enlèvement de Louis Hazan, et puis après une escroquerie. Il parle d'escroquerie aussi. Il avoue plus ou moins qu'il a participé, puis après il revient sur ses aveux. Ouais. Enfin bref, c'est un escroc mythomane qui n'est pas un grand bandit, qui se targue d'avoir fréquenté la mafia en Italie. D'ailleurs, ouais. Il dit que c'est la mafia qui l'a un peu téléguidé pour ou menacé pour faire cet enlèvement. Si vous voulez, tout ça, c'est des histoires. Ouais. Il n'avait pas l'envergure d'un mafiosi.
C'est ça. Il esquive vos questions. Jean-Pierre Birot, ses ravisseurs, là, je l'ai raconté. Alors, c'est peut-être un hasard, mais en tout cas, ils sont tous presque des militants d'extrême droite. Mais extrême droite très, très dure, hein, le baston, etc., ça rigole pas. Est-ce que vous avez, à ce moment-là, le sentiment que ça peut être un rapt politique ?
Non, parce que sur les déclarations, ça tient pas, quoi. Didier Prat nous dit qu'il a été enlevé pour fonder un mouvement anticommuniste et qui va toucher, lui, 5000 francs. Enfin, ce sont des explications qui, manifestement, qui ne nous convainquent pas du tout. Hein. Mm-hmm. Mais c'est vrai que ces jeunes appartiennent au groupuscule Parti Force Nouvelle.
C'est ça.
Et qu'ils ont fait le coup de poing, ceci, cela. Mais on sent que c'est pas la réalité c'est pas la motivation du rapt, quoi.
Ouais, parce que je vous dis ça parce que on pouvait imaginer un financement politique, hein, un rapt pour financer des actions politiques. Les journaux en parleront plus tard de cette piste.
Oui, mais les déclarations des uns et des autres sont trop fantaisistes et c'est pas les mises en cause sont des gens simples quand même. On s'aperçoit que c'est des bras cassés, quoi. Que ça tient pas la route, quoi.
Des bras cassés, mais reste désormais à sauver la vie de l'otage et en premier lieu savoir où il est retenu prisonnier. On va le voir. La clé de l'énigme est dans la couture d'un pantalon. Le rapt de Louis Hazan. Des ravisseurs prêts à faire le coup de feu. L'enquête de l'heure du crime, c'est ce soir sur RTL. À tout de suite.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Et ce soir, dans l'heure du crime, le rapt de Louis Hazan, un enlèvement crapuleux ou politique, difficile à dire. Plusieurs interpellations, plein d'indices, mais la police ne sait toujours pas où est détenu le PDG et s'il est toujours en vie. Les policiers de la CRIM interrogent sans relâche les suspects, mais personne ne semble savoir où est retenu Louis Hazan. Il serait aux mains d'une deuxième équipe. Le dénommé Daniel Merani, dit Miguel, qui a fréquenté le mouvement Ordre Nouveau, est assailli de questions. Il finit par craquer. Il se penche alors en avant, soulève le revers de son pantalon, sur lequel est écrit au stylo un numéro de téléphone incomplet, 32 58 36. Les enquêteurs l'identifient sans difficulté. C'est celui d'une maison isolée, rue de la Chardonnière, à Tremblay-les-Villages, près de Chartres. Le jeudi 7 janvier, vers 21h, les policiers de la CRIM et ceux du SRPJ de Versailles escaladent la grille de la villa de Tremblay, traversent un grand parc et pénètrent dans la demeure, vide, sale, en désordre. Personne à l'intérieur. Un petit bruit derrière une cloison creuse attire leur attention. Il y a là une porte qui s'ouvre sur un réduit. Au sol, sur un matelas, un homme cagoulé, entravé par des chaînes. C'est Louis Hazan, le PDG de Phonogramme. Il dira plus tard « J'ai cru ma dernière heure arriver ». L'ex-otage est transféré au 36 quai des Orfèvres. Son épouse Odile l'attend, ainsi que les journalistes, et l'une des vedettes de la maison Phonogramme, Nana Mouskouri.
J'ai été libéré par la police, et après être resté une semaine dans le noir, voir arriver brusquement des gens qui vous disent qu'ils sont de la police, c'est tout à fait stupéfiant. Moi, je dois dire, ça a été la plus grande surprise de ma vie.
Est-ce que vous avez voyagé ?
Non, je n'ai pas voyagé. J'étais quelque part dans le noir pendant une semaine.
Et vous avez l'impression d'avoir fait des kilomètres, tout de même ?
Oui, je vais faire des kilomètres entre mon bureau et puis le moment où on est arrivé à destination, mais je ne peux rien vous dire de plus.
Est-ce que vous avez des contacts avec vos ravisseurs ? Est-ce que vous parlez à vos ravisseurs ?
Non, pas du tout.
Est-ce que vous étiez au courant de la tactique de la police ?
Absolument pas. J'étais dans le noir, personne ne me parlait. Et au bout d'une semaine, où je me demandais ce qui allait se passer, la police a débarqué.
Est-ce que vous avez...
C'est vraiment stupéfiant.
Est-ce que vous avez une idée sur ce kidnapping ?
J'ai aucune idée. Je dois vous dire que, comme je débarque à l'instant, l'histoire en elle-même, je la connais pas. Vous la connaissez, moi je la connais pas.
Curieux dénouement que celui de ce rapt. Des geôliers, une nouvelle fois bien informés, qui abandonnent leur otage avant l'arrivée des policiers. Et des motivations qui restent des plus obscures. Face aux enquêteurs, Hugo Brunini, le patron de la société de nettoyage, affirme qu'il est l'instigateur de cet enlèvement. C'est lui qui a fixé le montant de la rançon. De son côté, Julien Vigne, l'employé de phonogramme, identifié comme la taupe, raconte qu'il était informé du projet d'enlèvement. Il avait accepté d'aider Brunini, une vieille connaissance. Brunini lui avait raconté qu'il avait des problèmes, une dette vis-à-vis de la mafia italienne. Il m'a fait comprendre qu'en cas de refus, ma famille en subirait les conséquences, dira Vigne. L'enquête ne permettra jamais de dire à qui était vraiment destiné l'argent. La piste du financement politique et celle du trafic d'armes resteront en filigrane de l'instruction. Le 3 novembre 1980, 9 hommes comparaîtront devant la cour d'assises de Paris. Aucune perpétuité, pourtant requise par le procureur, mais des peines modérées, entre 5 et 15 ans de prison, pour toute la bande. Claude Cancès, vous êtes en ligne, toujours dans l'heure du crime et avec nous ce soir. Alors, je disais, on reste un petit peu sur sa fin dans cette histoire, parce que finalement, est-ce qu'ils ont vraiment dit la vérité, tous ces ravisseurs ?
Non, qui n'aient pas tous dit la vérité, mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que le chef de groupe, Michel Carbot, a rendu un rapport un an et demi après les faits, dans lequel il fait la démonstration que toutes ces hypothèses farfelues qui ont été avancées par les uns et par les autres ne tiennent pas la route. C'était un enlèvement de voyous, de pâles voyous, certes, qui ne cherchaient qu'à une chose, qui était la pas du gain, c'est tout. Voilà. Mais c'est vrai que je me mets à la place des journalistes, des médias. Cette affaire pouvait laisser supposer pas mal d'hypothèses.
Oui, parce que là, en préparant cette émission, j'ai consulté notamment des articles du journal Le Monde.
Oui,
effectivement, cette hypothèse de financement politique, de trafic d'armes, elle revient souvent. Jean-Pierre Biraud, je crois que vous allez beaucoup voyager dans cette histoire, puisque vous allez même aller rechercher très loin le certain Prévost, c'est-à-dire l'homme de l'attentat du Petit Clamart, qui est impliqué dans cette histoire.
Et nous avons, et bien sûr, un télégramme national avait été fait.
Parce qu'il était introuvable,
Il était introuvable, et on a appris en janvier 1977 par la préfecture des Hauts-de-Seine que Jacques Prévost avait demandé le renouvellement de son passeport au consulat français à Singapour. Mm-hmm. Bien sûr, on a fait immédiatement des recherches, notamment avec un correspondant qu'avait Michel Carbois à l'ambassade des États-Unis, quelqu'un du FBI. Enfin, tout a... On est arrivé à déterminer que Jacques Prévost était employé, parce qu'il avait passé en prison à suite de l'attentat du Petit Clamart, le diplôme d'ingénieur. Il était employé comme une société de pétrole de prospection à Bornéo.
C'est ça, donc vous allez le repérer comme ça,
hein. On va le repérer comme ça. Claude Cancès, bien sûr, s'est battu avec la direction pour qu'on parte à Bornéo. On est parti avec Claude Cancès et Michel Carbois, pas à Bornéo, mais à Jakarta. Et à Jakarta, on a eu un très bon contact par l'attaché militaire avec le directeur de la police indonésienne.
Et vous avez pu comme ça le ramener en France.
Et on a pu il nous a remis Jacques Prévost, qui est allé arracher dans la jungle à Bornéo. Il nous l'a remis sur un paquet cadeau sur un avion direct pour Paris.
Voilà, c'est ça. Et il ne va pas vous apprendre grand-chose d'ailleurs, Prévost.
Hein. Non, hein, mais Jacques Prévost... Il ne va pas nous apprendre grand-chose. Quand il monte dans l'avion, il dit « Je m'attendais à être arrêté, je vous demande simplement, je sais que je pars en prison, de manger, boire et fumer tranquillement. »
Ce qui est déjà une bonne détermination.
Il était en bonne compagnie.
Claude Cancès, en ligne ce soir dans l'heure du crime. Je crois que vous avez continué à voir assez régulièrement Louis Hazan. Il était très marqué par cette affaire, le PDG de Phonogramme.
Oui, d'ailleurs, Jean-Pierre et moi, on lui dédie ce livre qu'on dédie aussi à...
Il est décédé aujourd'hui, hein, c'est ça ?
Oui, oui, il y a deux ans, je l'ai revu jusque quelques mois avant sa mort, parce que lorsque nous avons sorti des livres sur l'histoire du 36, j'allais lui dédicacer, et on passait des heures à parler sur cette affaire qui l'avait beaucoup marqué. Il avait une reconnaissance éternelle envers Pierre Ottavioli, c'était incontestable.
Claude Cancès, encore une question. Pourquoi il n'y a plus de rapt aujourd'hui comme ces grands rapts?
Tout simplement parce que vous tiriez tout à l'heure un coup de chapeau à Michel Poniatowski. C'est pas au ministre qu'il faut tirer le coup de chapeau.
C'était pas un coup de chapeau, c'était un constat.
Hein. Oui, non. Mais c'est ce qu'ont dit les médias. Mais Pierre Ottavioli a compris à cette époque-là que si on n'employait pas la fermeté, si on laissait verser des rançons, on allait vivre ce que vivaient les Italiens à cette époque-là. C'est-à-dire que l'enlèvement avec demande de rançon était devenu une industrie. Non seulement les rançons étaient la plupart des temps versées à l'insu de la police, mais une fois sur deux, on retrouvait un cadavre. Et Pierre Ottavioli a fait passer ce message à sa hiérarchie administrative, et donc ministère intérieur et judiciaire, procureur de la République. On avait d'excellents rapports avec les magistrats à cette époque-là. Il ne faut pas céder. On n'a pas cédé, et depuis, il y a eu des enlèvements, mais la fine fleur du banditisme français s'est recyclée dans la drogue, la cybercriminalité, etc. Une parenthèse rapide, c'est que la première affaire d'enlèvement d'Azan, à part Jacques Prévost, qui était une pointure, c'était pas un bandit, mais enfin, il avait un passé quand même qui était hors norme, toutes les autres équipes jusqu'à l'affaire en paix, c'était vraiment des beaux voyous.
Parfait. Écoutez, merci beaucoup Claude Cancès et Jean-Pierre Biraud d'avoir été les invités de l'heure du crime. Je rappelle le titre de votre livre qui est passionnant, l'affaire Azan, qui paraît aujourd'hui aux éditions Mareuil. Merci de nous en avoir donné la primeur sur RTL. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Et puis un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime avec nous.